Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le feu couve décidément à la police depuis le début de la semaine. Les déclarations du ministre de l'Intérieur résonnent comme une bombe à retardement. Après avoir tenté en vain hier de désamorcer la crise, Christophe Castaner s'apprête à rencontrer cet après-midi les syndicats des officiers et des commissaires. Invité de la rédaction en début de ce journal, Jean-Michel Schlosser, ancien policier, aujourd'hui chercheur spécialiste de la sociologie, de la violence et de la force publique. À l'étranger, nous irons tout d'abord aux États-Unis où le premier meeting post-pandémie du candidat Donald Trump prévu la semaine prochaine fait d'ores et déjà polémique. Nous reviendrons également sur les sanctions économiques décidées hier par Washington contre tout responsable de la Cour pénale internationale qui viserait des militaires américains. Enfin, nous verrons comment, à la faveur de la mobilisation antiraciste à travers le monde, un débat a ressurgi en Allemagne. La terminologie de race a-t-elle sa place dans la constitution d'un pays ? La colère des policiers ulcérée par les propos du ministre de l'Intérieur lundi dernier prônant une tolérance zéro pour des faits de racisme est-il un simple mouvement d'humeur comme l'a laissé entendre ce matin la garde des Sceaux Nicole Belloubet. À la veille d'un week-end marqué par des appels à manifester contre les violences policières et le racisme, il semble surtout qu'un véritable vent de fronde souffle aujourd'hui au sein des forces de l'ordre. Alors hier, Christophe Castaner a certes reçu tout l'après-midi les syndicats des gardiens de la paix et des gradés pour tenter de désamorcer justement ce début de fronde. Le ministre de l'Intérieur doit encore recevoir aujourd'hui les représentants des officiers et des commissaires. Sauf que la mobilisation des fonctionnaires menace déjà de déborder. Dès hier soir, le syndicat Unité CGP Police a appelé tous les policiers à se rassembler devant les commissariats et déposer à terre de façon symbolique leurs menottes. Et depuis ce matin, bravant l'interdiction de rassemblement, une centaine de policiers manifeste sur les Champs-Élysées entre l'Arc de Triomphe et la place Beauvau où se trouve le ministère de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter Fabien Van Emmelrijk, secrétaire général du syndicat Alliance Police, au micro de Stéphane Père.
La police nationale, je tiens à le dire aujourd'hui, c'est pas l'éponge du gouvernement. Elle est là pour te protéger, mais elle n'est pas là pour s'essuyer les pieds dessus. Donc aujourd'hui, on est venu dire au président Macron qu'il doit soutenir, respecter, considérer sa police. Moi, j'ai juste à répondre que la police n'est pas raciste. On en a marre de l'entendre. Que la police est républicaine. Elle protège et elle sauve des vies, quelle que soit la couleur de peau de l'individu. Le gouvernement doit nous donner les moyens de travailler. Il doit donner les moyens que l'on soit considéré. Et doit faire en sorte de sanctionner ceux qui nous agressent, qui nous massacrent, pour reprendre certains propos d'une certaine chanteuse, et doit faire en sorte de mener à bien la mission qui lui est confiée, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes et des biens à travers sa police.
Voilà Fabien Van Emmelrijk, secrétaire général du syndicat Alliance Police. Il répondait à Stéphane Père. À l'évidence, le mouvement d'humeur qu'évoquait ce matin la garde des Sceaux n'est donc pas sur le point de s'apaiser. Côté réaction politique, cette fois-ci, le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, a estimé ce matin que Christophe Castaner, dont la seule particularité, dit-il, est d'être un proche d'Emmanuel Macron, devait démissionner, car toujours selon lui, il mettrait en danger l'institution. À droite, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, juge que la rupture entre le ministre de l'Intérieur et la police est totale et définitive. Jamais, dit-il, un ministre de l'Intérieur n'a lâché ses troupes aussi piteusement. Enfin, Marine Le Pen s'est quant à elle rendue ce matin au commissariat de Villeneuve-la-Garenne pour y rencontrer des policiers. L'occasion pour la présidente du Rassemblement National de dénoncer une présomption de culpabilité à l'égard des policiers.
Vous m'avez entendu dire très souvent dans les années passées qu'il faut à tout prix réarmer moralement, matériellement et juridiquement la police. Et je m'aperçois que c'est plus nécessaire que jamais, compte tenu de la situation. L'écœurement qui touche les forces de l'ordre m'apparaît être un élément évident de la séquence actuelle. Et donc, il s'agit, encore une fois, de faire également pour nous des propositions. Nous avons rendu public un pacte de confiance républicaine avec l'idée simple, c'est que les policiers doivent pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles pour la sécurité de tous, voilà, et pour recréer ce lien de confiance qui est, sinon rompu, du moins atteint avec une partie de la population.
Alors, Marine Le Pen entendrait-elle profiter de la colère des policiers? On sait que les forces de l'ordre votent en moyenne beaucoup plus à l'extrême droite que le reste de la population. Et en ce sens, les propositions de la présidente du Rassemblement National pour la protection de la police, inspirées d'ailleurs d'un livre blanc sur la sécurité présenté déjà en février dernier, s'adressent aussi directement à sa base électorale. Et puis au-delà, Stéphane Robert, se dessine également évidemment une opération pleinement politique.
La séquence qui s'est ouverte lundi avec le discours de Christophe Castaner fait figure d'aubaine politique pour Marine Le Pen. Le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il pouvait y avoir des comportements racistes au sein de la police et il a annoncé vouloir appliquer une tolérance zéro en la matière avec des sanctions en cas de soupçons avérés. Il aurait depuis reconnu une maladresse langagière selon les syndicats de policiers. Mais ça ne suffit pas à apaiser la colère qui s'exprime depuis plusieurs jours. Colère sur laquelle surfe le Rassemblement National et sa présidente. Dès le discours du ministre lundi, les principaux cadres du RN ont dénoncé un lâchage des forces de l'ordre par le pouvoir exécutif. On sait que Marine Le Pen est en campagne. Elle a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 au mois de janvier. Et l'électorat policier constitue pour elle une cible électorale privilégiée. Aux récentes élections, que ce soit au régional en 2015 ou à la présidentielle en 2017, des enquêtes réalisées notamment par le CVPOF ou encore par l'IFOP montrent que plus de 50% des policiers et des gendarmes votent pour le Rassemblement National. Et les effectifs de police et de gendarmerie représentent 250 000 personnes auxquelles il faut ajouter leur famille et leur entourage pour avoir une idée de ce qu'ils représentent comme potentiel électoral. C'est assez conséquent. Au-delà des policiers et de leurs proches, Marine Le Pen cible une clientèle électorale beaucoup plus large, à droite, attachée à l'ordre et à la sécurité. Et puis cette défense de la cause policière contre les accusations de racisme lui permet de mettre en avant sa vision de la société, celle d'un corps social homogène que menacent les populations d'origine immigrée en cherchant à installer le désordre et l'insécurité.
Voilà, et toujours pour évoquer donc cette fronde au sein de la police. Invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Michel Schlosser, ancien policier, aujourd'hui chercheur à l'université de Reims et de Versailles-Saint-Quentin, spécialiste de la sociologie de la violence et de la force publique et auteur d'une thèse sur la formation des policiers. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et également avec nous au téléphone pour vous interroger, Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour.
Une première question, monsieur Schlosser. Pensez-vous que la colère des policiers est un mouvement d'humeur qui s'apaisera, comme l'a donc déclaré ce matin la garde des Sceaux, Nicole Belloubet?
Qui s'apaisera certainement, souhaitons-le, mais c'est certainement un mouvement d'humeur plus important. Les policiers sont habitués à ce type de mouvement, je dirais de façon cyclique, à peu près tous les 10 ans. Il y a des mouvements qui sont liés soit à des problèmes de matériel, soit à des problèmes qui relèvent de ressources humaines, et très souvent aussi à la suite d'événements meurtriers qui endeuillent la police nationale et qui évidemment créent une émotion qui est très lourdement ressentie, ce qui amène ce type de mouvement d'humeur, mais de façon plus importante. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent quand même, parce que il y a eu toute la période gilets jaunes, la période des grèves pour le mouvement des retraites. Les policiers ont été très, et les gendarmes, hein, disons-le aussi, ont été très durement touchés, au sens propre comme au sens figuré. Il y a un ras-le-bol général, et là, en plus de tous les problèmes que j'ai évoqués, et qui sont également évoqués, matériels et autres, hein, il y a sans doute l'impression d'être lâché, et en plus de ça d'être absolument incompris. La violence, c'est les policiers, le racisme, c'est les policiers, les débordements, c'est les policiers, et jamais ceux qui sont en face. Et ça, les policiers le vivent très mal aujourd'hui.
Question de Margot Delpierre.
Pensez-vous que la colère a atteint son pic ou on peut s'attendre à plus ?
Il est possible qu'on puisse s'attendre à plus. Moi, je note une différence avec avec l'année dernière où les syndicats avaient été un petit peu débordés. Là, il semblerait que les syndicats aient pris le train au bon moment et qu'il y ait une entente assez solide avec la base. Et je parle de la base, mais base des syndiqués, mais de tous les policiers. Vous voyez, les officiers, les commissaires, il y a une forme d'intersyndicale et puis le mécontentement est commun. Il y a plusieurs métiers dans la police, mais tous les policiers, quel que soit leur métier, sont aujourd'hui très ulcérés par ce qui se passe.
Les flics de France ne considèrent plus Christophe Castaner comme le supposé premier flic de France. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire général d'Unité SGP Police en sortant de leur entrevue. Est-ce qu'il est encore possible de rétablir ce lien de confiance entre le ministre et les forces de l'ordre ou est-ce que Christophe Castaner est complètement discrédité?
Ah, je crains qu'il ne soit très largement discrédité, et pour rétablir le lien de confiance, ça va être difficile, parce qu'il faudrait envoyer en direction des forces de l'ordre un discours qui est très différent, mais politiquement peut-il le tenir, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On est aujourd'hui, si vous voulez, avec ce problème policier, comme plus largement dans les problèmes socio-économiques en France aujourd'hui, la France est un petit peu divisée en deux, et malheureusement, il semblerait qu'il y ait et certaines organisations mettent de l'huile sur le feu en rajoutant à ça. Donc il y a une opposition entre policiers et non policiers dans certaines strates de la société. Donc comment la partition peut être jouée par le ministre, c'est très difficile aujourd'hui pour lui.
Justement, qu'est-ce qui pourrait calmer la colère des policiers ?
Ce qui pourrait calmer la colère des policiers, c'est déjà de tenir les engagements qui ont été pris il y a pas mal de temps, sur la formation continue, sur la création de l'académie de police, sur les caméras piétons, sur les heures supplémentaires, sur la garantie juridique, sur le soutien, y compris le soutien moral, sur le fait de ne pas les accabler sans cesse de tous les maux, dont parfois qu'ils sont responsables, on ne peut pas le nier, mais dont ils ne sont pas les responsables, de reconnaître aussi qu'il y a une forme de violence endémique et en augmentation. Voilà tout ce qu'attendent les policiers. Et puis surtout, encore une fois, non seulement d'être soutenus, mais d'être compris. Que les responsables politiques connaissent leur métier, sachent exactement ce que font les policiers et les difficultés qu'ils rencontrent.
Merci Jean-Michel Schlosser, ancien policier, je le rappelle, aujourd'hui sociologue et auteur d'une thèse sur la formation des policiers, d'avoir répondu à notre invitation, et merci également à Margot Delpierre. Le déficit du système de retraite français devrait approcher les 30 milliards d'euros en 2020, c'est ce qui ressort d'une estimation provisoire publiée ce matin par le Conseil d'orientation des retraites, une chute liée principalement au report et aux exonérations de cotisations sociales décidées par le gouvernement pendant la crise sanitaire. À deux jours de son allocution télévisée, Emmanuel Macron réunissait tour à tour ce matin le conseil scientifique, puis un conseil de défense pour faire le point sur la crise sanitaire et d'éventuelles nouvelles mesures d'assouplissement du déconfinement. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours pour réclamer en effet d'aller plus vite. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a notamment appelé à faire passer la région d'orange à vert, ce qui permettrait par exemple aux restaurateurs de pouvoir rouvrir entièrement leurs restaurants. De son côté, le président du MEDEF a demandé à réviser les protocoles sanitaires s'appliquant en entreprise pour permettre un retour à la normale rapide. Enfin, les appels se font également plus pressants pour que les écoles accueillent davantage d'élèves, notamment afin de permettre aux parents de reprendre le travail. Alors, il est un pays voisin où la baisse du nombre de cas de contamination, mais aussi un appel des pédiatres à renvoyer plus largement les enfants à l'école, a fait changer de pied le gouvernement. C'est la Belgique. Là-bas, les maternelles ont rouvert ainsi que les primaires. Fini donc les demi-classe. Depuis lundi, on est passé de une à deux journées par semaine à une reprise totale en classe entière chez tous les élèves, à l'exception toutefois du secondaire. Alors bien sûr, des mesures sanitaires strictes continuent de s'appliquer, mais la vie a donc repris un cours normal, comme en témoigne ce reportage devant l'école communale du centre à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles, signé Angélique Bois.
Large sourire sur les visages, la quasi-totalité des écoliers foncent rejoindre leurs copains dans la cour, sans même embrasser les parents. Mais Frédéric est très, très content.
C'est vraiment merveilleux, parce que ça nous permet de nous souffler en tant que parents. Et on n'y croyait pas, mais voilà.
Soulagement également pour Pauline et sa maman.
C'est bien, parce que je retrouve toutes mes copines.
Ah, ça fait du bien à tout le monde. C'est plus pour les plus petits, je trouve, où c'est un peu plus compliqué parce qu'ils se sont habitués à rester nouveau avec leurs parents, à être dans un petit cocon, une bulle. C'est plus compliqué, en tout cas chez nous.
Un retour en classe qui inquiète très peu les parents interrogés. Catherine estime que c'était nécessaire.
Les chiffres sont tellement bas, pour moi ça m'a semblé naturel et juste. On verra, hein. Le risque zéro n'existe pas.
Masque sur le visage pour accueillir parents et enfants, le directeur, Dominique Verlinden, est lui aussi ravi. On a récupéré, dit-il, 98% de nos élèves.
Tous les signaux étaient au vert. On a quand même l'appui et l'avis positif de centaines et de centaines de pédiatres, de scientifiques, de psychologues, de pédagogues. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, il faut pouvoir faire confiance à la science et avancer. Prudemment, certes, mais utilement aussi.
Chaque classe est organisée en bulles sociales. social avec son propre espace délimité dans la cour, pas de cantine mais des repas froids et des déplacements limités. Le masque est recommandé pour les enseignants mais pas pour les enfants. Un retour à la vie presque normale.
On sent vraiment que les enfants en avaient besoin, que les familles en avaient besoin aussi et que malgré tout le dynamisme qui avait pu être mis en œuvre au niveau du continuum pédagogique à distance, on sentait aussi un essoufflement et donc une nécessité effectivement de reprendre et de recréer ce lien avant le début de l'été.
Une réouverture totale qui ne concerne pas les élèves du secondaire, toujours en demi-classe et à qui l'on conseille le port du masque.
Un reportage dans la banlieue de Bruxelles, signé Angélique Bouin. Il avait eu de cesse d'alterner création de textes classiques et contemporains. Le metteur en scène et comédien Marcel Maréchal, ancien directeur du théâtre du Rond-Point à Paris et fondateur de la Criée, Théâtre National de Marseille, est décédé la nuit dernière. Il était âgé de 83 ans. La convention républicaine, cette grand-messe au cours de laquelle Donald Trump doit officiellement et sans surprise être désigné candidat du parti pour la présidentielle de novembre, aura finalement lieu en Floride. Initialement, l'événement était prévu en Caroline du Nord, du moins avant que le gouverneur démocrate ne dise qu'en application des recommandations des autorités sanitaires, il jugeait nécessaire d'envisager un rassemblement sur un format plus réduit au grand dam du président, lequel a donc été contraint de chercher un autre état. Et puis, en attendant la prochaine convention, le premier meeting post-pandémie du candidat Donald Trump aura lieu, lui, dans une semaine à Tulsa, en Oklahoma, de quoi susciter d'ores et déjà des interrogations sur le fait d'organiser un tel événement politique alors même que l'épidémie n'est pas encore terminée, sans compter que le lieu et la date de ce meeting suscitent là aussi la polémique. C'est une correspondance à Washington signée Grégory Phillips.
Quand sur le site officiel de Donald Trump, vous réservez un ticket pour le meeting de Tulsa vendredi prochain, il faut d'abord cliquer sur un bouton rouge et s'engager à ne poursuivre ni le président américain, ni la salle qui peut accueillir 19 000 personnes, ni les organisateurs du meeting. Si vous êtes contaminé par le Covid-19, il est écrit, vous assumerez tous les risques. Il n'est pas précisé si le port du masque sera recommandé ou obligatoire. En Oklahoma, le virus est toujours présent, 146 nouveaux cas recensés hier. D'autres meetings sont prévus en Floride, en Arizona et en Caroline du Nord où l'épidémie est encore galopante. Le choix de Tulsa et la date, le 19 juin, suscite aussi la polémique. Ce jour-là, aux États-Unis, on commémore l'abolition de l'esclavage en 1865. Or, Tulsa a été le lieu de l'un des pires massacres d'Afro-Américains de l'histoire du pays. En 1921, quand une foule de Blancs avait tué entre 200 et 300 Noirs, un lynchage collectif largement oublié des livres d'histoire, la sénatrice démocrate de Californie, Kamala Harris, qui soutient le rival Joe Biden, y voit un message adressé par Donald Trump aux suprémacistes Blancs.
Après des semaines de tourmentes nationales et d'introspection, Donald Trump a fini par annoncer hier son intention de publier un décret sur la police, tout en se disant opposé à une vaste réforme. En réponse aux manifestations contre les discriminations raciales et la brutalité des forces de l'ordre, l'administration de Washington entend pousser pour une meilleure formation des agents. En revanche, le président a tourné en ridicule les appels d'activistes en faveur d'une limitation du financement de la police pour allouer ses fonds à des programmes éducatifs, sociaux ou locatifs. Après avoir repris langue avec le gouvernement irakien, désormais dirigé par un premier ministre plus favorable à Washington, les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient réduire leur présence militaire en Irak. Les deux pays disent avoir pris acte du fait que des progrès significatifs ont été réalisés vers une éradication de la menace que constitue le groupe djihadiste État islamique. Il faut dire aussi que le sentiment anti-américain en Irak s'était particulièrement diffusé ces derniers mois. En échange, Washington a promis de favoriser une aide économique à Bagdad. Après avoir ordonné la suspension du financement de l'OMS, après avoir menacé de quitter l'OMC, Donald Trump, fidèle à sa stratégie du coup de force permanent, sinon du chaos, a de nouveau haussé le ton hier vis-à-vis cette fois-ci de la Cour pénale internationale. Engagé depuis plusieurs mois déjà dans une offensive sans précédent contre la juridiction de l'AE, le locataire de la Maison-Blanche a signé un décret autorisant son administration à interdire l'entrée sur le territoire américain des représentants de la CPI, ainsi qu'à les pénaliser financièrement. Alors cette nouvelle offensive, en réalité, n'est pas franchement une surprise. Elle fait suite à la décision, en mars dernier, de la juridiction internationale d'autoriser l'ouverture d'une enquête contre des militaires américains pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan, là où les États-Unis mènent depuis près de 20 ans maintenant la plus longue guerre de leur histoire. Les précisions de Bertrand Galichet.
Si la charge de l'administration états-unienne contre la Cour pénale internationale n'a rien de nouveau, sa virulence outrepasse désormais tous les usages diplomatiques. Devant les caméras, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est livré hier à une attaque en règle contre la CPI, qualifiée de tribunal bidon. Pour montrer que le gouvernement Trump fait bloc sur ce sujet, le chef de la diplomatie américaine s'est présenté en compagnie de ses homologues de la défense et de la justice et du conseiller à la sécurité nationale. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos gars sont menacés », a dit Mike Pompeo, allusion à l'autorisation donnée au mois de mars par la Cour pénale internationale à l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan. Cette procédure vise implicitement des militaires des États-Unis, mais aussi la CIA pour des allégations de torture. Inacceptable, selon la Maison-Blanche, qui se cabre également devant toute possibilité d'enquête concernant des crimes de guerre en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et visant l'État hébreu. Benjamin Netanyahou a aussitôt renchéri en dénonçant à son tour un tribunal politisé qui mènerait une chasse aux sorcières contre Israël et les États-Unis en fermant les yeux sur l'Iran. Washington accuse enfin des puissances étrangères comme la Russie de manipuler la Cour pénale internationale.
C'est l'une des étonnantes conséquences en Europe du mouvement de protestation qui a suivi la mort de George Floyd aux États-Unis. Le déboulonnage dans l'espace public de statues symbolisant l'oppression blanche, ou quand le Royaume-Uni, mais aussi la Belgique en l'occurrence, s'interroge sur leur passé colonial et impérialiste. Et puis en Allemagne, là-bas, un autre débat ressurgit toujours à la faveur de la mobilisation antiraciste. La terminologie de race a-t-elle sa place dans la constitution d'un pays? Les écologistes, deuxième force politique du pays dans les intentions de vote, ont été les premiers cette semaine à suggérer une modification de la loi fondamentale du 8 mai 1949, rédigée dans l'après-guerre et qui reste imprégnée d'une vision raciale et biologiste des êtres humains héritée du 19e et aujourd'hui obsolète. Alors en réalité, cette revendication est portée depuis de nombreuses années déjà par la gauche. Or voilà que les conservateurs de la chancelière, jusqu'à présent silencieux sur cette question, semblent eux aussi évoluer. Les précisions à Berlin de Nathalie Versieux.
L'article 3 de la Constitution allemande stipule que nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie, de ses origines, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. Depuis des années, les Verts réclament le retrait du mot race de la Constitution. Jusqu'à présent, la droite allemande a fait preuve de scepticisme sur le sujet. Il faut combattre le racisme au quotidien, estime par exemple Friedrich Merz, l'un des candidats à la succession d'Angela Merkel au sein de la CDU. Ce représentant de l'aile droite du parti appelle à ne pas comparer l'Allemagne avec les États-Unis. Je ne suis pas convaincu qu'un changement de terme dans la loi fondamentale fera avancer les choses en matière de lutte contre les discriminations, ajoute le vice-chef du groupe parlementaire conservateur Thorsten Frey. Mais le camp conservateur évolue. Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, connu pour ses positions conservatrices, s'est ainsi dit ouvert à la discussion, tout en ajoutant qu'il s'agit à ses yeux d'un débat rhétorique et qu'il est plus important de contenir le racisme dans la pratique. L'initiative des Verts pose un problème concret, la nécessité de se mettre d'accord à une majorité des deux tiers au sein du Bundestag sur la terminologie qui devrait remplacer le mot de race.
Le nombre exact de corps retrouvés n'a pas été communiqué, mais des lambeaux de vêtements étaient encore éparpillés près de fosses communes recouvertes de terre fraîche hier après l'annonce de la découverte de charniers en Libye. La mission de l'ONU a fait part de son horreur. Le gouvernement d'Union nationale a précisé qu'il allait ouvrir une enquête. La plupart de ces fosses, au nombre de 8, se situent au sud de la capitale Tripoli, une région encore jusqu'à il y a peu aux mains des forces du général Haftar, désormais plus que jamais sur la défensive. Enfin, en Syrie, le président Bachar al-Assad a limogé hier son premier ministre en fonction depuis 2016. Aucune justification officielle n'a été donnée. On sait par ailleurs que ce poste de premier ministre offert à la majorité sunnite n'a en réalité que peu de pouvoir, étant entendu que c'est le cercle rapproché du président issu de la minorité alaouite qui domine aujourd'hui la vie politique. En revanche, cette décision soudaine pourrait viser à calmer le mécontentement des loyalistes au moment même où le pays en guerre depuis près de 10 ans fait face à une grave crise économique et à une baisse spectaculaire de la valeur de sa monnaie. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Couvert sur la majeure partie du pays avec des pluies durables, passagèrement soutenues, voire orageuses au total. 9 départements ont été placés en vigilance orange. L'Ardèche, le Puy-de-Dôme, l'Aveyron, le Cantal, les Côtes d'Armor, le Finistère, le Gard, la Haute-Loire et la Lozère. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.